Salut, c'est Monsieur Poulpe et bienvenue dans Pop Pop Pop. Attention, 5, 4, 3, 2, 1 sur les starting blocks. C'est parti pour la radio.
Pop-opien et tous les autres aussi, bonjour. Ce n'est pas un hasard si nous avons attendu ce jeudi 14 février, autrement dit la Saint-Valentin, pour inviter Grégoire et David, qui ont choisi pour patronyme commun Palma Show, lui-même né des amours plus anciennes entre Pierre Palmade et le Sacha Distel du Sacha Show. Oui, le cupidon de l'humour n'a pas raté sa cible en visant leur petit cœur palpitant. Pour preuve, ce beau bébé qu'il s'apprête à porter sur les fonds baptismaux de TF1 demain vendredi à 21h sous le titre « Ce soir, c'est Palma Show », alors que d'habitude, vendredi, c'est Ravioli. Oui, je sais, normalement c'est lundi, mais lundi c'est série sur TF1. Et moi je dis, le Palma Show, un vendredi à 21h, en ouverture de week-end, avec un bon plateau repas, voilà une occasion de plus d'être ravi au lit.
Oui.
Enfin bon, ces deux-là s'aiment d'amour tendre, comme le petit poisson et le petit oiseau de Juliette Gréco, et leur petit dernier est un pur ravissement. Il babille joyeusement avec l'insouciance des nouveau-nés, et au grand soulagement de ses deux papas, il est déjà propre et s'apprête à faire retrouver le sourire au cœur les plus endurcis.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine de Caunes.
Bonjour Grégoire Ludig.
Bonjour.
Bonjour David Marseille.
Bonjour Antoine. Bonjour.
Bienvenue dans le studio de Pop, pop, pop. Sérieusement, vous avoir le jour de la Saint-Valentin, c'est une pure coïncidence.
Ah ça, je ne sais pas, oui.
Non, je crois pas, moi. Je crois que les gens ont décelé des choses.
Ah ouais.
Je pense que ça tombait très bien, moi.
Depuis Santa et compagnie.
Tout à fait. Possible.
Nous allons déceler encore plus demain soir. À mes côtés, Charline Roux. Bonjour, Charline.
Bonjour.
Et alors, un message personnel à vos admirateurs, Charline. Arrêtez d'envoyer des fleurs, s'il vous plaît. Le bureau est plein et surtout, ça nous oblige à descendre à chaque fois à l'accueil pour ouvrir.
Parce que vous êtes allergique, c'est pour ça.
En plus, oui. Bien, après les folles soirées que vous avez organisées sur C8, demain, vous débarquez tous les deux sur... chaîne de Jean-Pierre Pernaut, Jean-Luc Reichmann et Joséphine Ange-Gardien.
Tout à fait.
Oui. Mais on partage les ondes positives, nous.
Ouais, elle est sympa, Joséphine.
Super sympa.
Ah ouais. D'ailleurs, elle est avec nous dans le studio.
Ouais. Hein. Mais elle peut partir à tout moment. Elle peut claquer des doigts si jamais elle s'ennuie. Elle part ouais. Comme ça.
Non, non, elle est là.
Ça va, Joséphine?
Ça va?
Comment ça va, Joséphine?
Elle est un peu loin du micro, pardon. D'ailleurs, vous savez faire ça? Ça marche,
ouais.
Oui, le miracle. Aujourd'hui dans Pop Pop Pop, donc nous allons parler de ce soir. C'est pas le macho qui est diffusé demain et on en parle avec vous tout à l'heure. Ce soir, aujourd'hui, demain, tout à l'heure. Enfin, si vous avez compris quelque chose à ce lancement, appelez-nous au 01 56 40 64 04. Vos témoignages sont importants. Au menu également de Pop Pop Pop, Roland Gros, notre chroniqueur, qui viendra nous livrer sa pop prescription de la semaine. Mais avant ça, Grégoire Ludig,
oui,
et David de Marseille,
oui,
ici
oui.
Il existe une question encore plus intrigante,
oui,
qu'une réplique de la série TF1 Demain nous appartient.
Le pudding à la mangue.
Mais oui, vous partez en Chine. Alors je suis passée devant ce petit traiteur et je me suis dit, Elisabeth, ça c'est pour Flore.
Cette question, c'est... Pour vous. C'est quoi la pop culture? Alors, pour être totalement honnête, j'ai eu des réponses palmipantes, palmouteuses, palmipèdec, palmarétantes, voire palmipèdes. Et parmi mes préférées, il y a celle de Florence Foresti, guest de votre soirée spéciale.
C'est moi?
Plus bref.
La culture pop, c'est moi.
Bah oui,
ah,
voilà.
C'est pas mal ça.
Je crois que j'incarne. T'as vu comme j'ai gagné en humilité,
oui,
hein,
oui,
pendant
oui,
toutes ces années.
Non, mais
je le dis, mais je le pense un peu. C'est-à-dire que j'ai l'impression quand même que je fais partie. Et moi, je ne suis nourrie que de ça, de culture pop, parce que j'ai pas eu accès à une autre culture, parce que j'ai pas fait d'études ou littéraires ou quoi. Et donc, du coup, ma culture, elle est complètement pop, là, pour le coup.
Bien. Et pour vous, Grégoire,
c'est bien dit.
C'est
ouais,
quoi,
c'était bien raconté.
La pop culture.
Eh ben, écoutez, la dernière fois qu'on est venu, Antoine, on vous a donné une définition de la pop culture qui était superbe et vraiment géniale, mais on ne s'en souvient plus.
Moi non plus.
Et on pense que c'est ça, la pop culture.
C'est faux.
Exactement, la capacité à l'oubli d'un instant qu'on a trouvé très cool.
Vous voulez dire éphémère?
Éphémère, voilà.
Un peu éphémère, oui. Avec un soupçon de résilience, peut-être.
Avec un soupçon de résilience. Oui, un peu, oui. T'en penses quoi, toi?
Moi, j'en pense, je suis assez d'accord et j'aime à croire aussi que la pop culture, tout le monde peut y avoir accès. Et c'est quand même une culture dans laquelle on baigne un peu tous. Et dans laquelle je suis en train de me noyer là.
Dans
cette explication. Mais je rejoins tout ce qu'a dit Florence dans le fait de dire qu'elle incarne aussi la pop culture.
Oui.
C'est les gens qu'on voit, c'est les gens qu'on aime, c'est les gens qu'on, pour qui on a des coups de cœur.
Vous en faites donc partie.
Ben,
mais je sais pas si.
Je pense que tous les
artistes. Ouais. Peut-être les artistes, effectivement, font partie de cette pop culture.
Ou alors rêve de pop.
David.
Bien. Grégoire Ludig, David Marseille. Si on était sur TF1, on écouterait maintenant du Vianney. Ou plutôt Vianouche. Hein,
Vianouche.
Version du chanteur.
Oh, la chère Henri, je suis chanteur, je suis fier. Mais les gens n'achètent plus de CD. Ce week-end, c'est la fête des mères.
Vianouche, la chienlit. Mais comment on est dans
la chienlit?
Ouais.
2 ans de conservatoire.
On est dans Pop.
Mais la voix est bien.
On va écouter un autre chanteur français, un peu plus, un peu moins, enfin, bref, comment. Tiens, aidez Joséphine à monter sur le tabouret. Enfin, bref, on va écouter Edge Burns avec le morceau Crazy Ones. Voilà. Crazy One, c'est un morceau signé du français H. Burns, qu'on peut donc rebaptiser H. Burn, et qui nous vient de Romans sur Isère. Et nous saluons, au passage tous les romanciers sur Isère. Bref, vous écoutez Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon Et nous sommes aujourd'hui avec un duo de l'humour. Mais de qui s'agit-il ? Chevalier Las Palès, Nolo et Zemmour, les Chevaliers du Fiel, Shirley et Dino ? Ah, je ne vais pas tous les faire. Hein. Alors, pour savoir qui sont nos invités, passons à leur pop portrait. Alors, votre pop portrait, bien sûr, c'est votre portrait, mais...
À base de pop, 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 pop.
Voilà. Et il est signé, ben, Charline Rero.
Aujourd'hui, nous recevons la preuve que, comme l'a dit Anton Tchekhov dans la nouvelle éponyme, à deux, c'est mieux. Et zbra dans la même phrase, éponyme Tchekhov. La parodie n'interdit pas les lettres et la culture, ils en sont l'illustration aussi. Cette longue, oh, beaucoup trop longue intro, je le sais, pour asseoir le fait que ce duo rigolo est solide, pas le genre à splitter en plein festival façon Gallagher, ou à s'éloigner de manière irréconciliable parce que l'un des deux se met à tenir un discours nauséabond. Je laisse un petit blanc interrogatif.
Ouais, c'est ça.
Peu de chance aussi qu'ils finissent tristes et ruinés comme Laurel et Hardy. Les gars sont quand même passer du web à C8 au ciné à TF1. L'année prochaine, c'est Copy Comics ou rien. Alors après la folle histoire du Palma Show, les Very Bad Blagues, leur folle soirée, Can Off et la folle histoire de Max et Léon, revoilà non pas la sous-préfète, mais ces deux gars pour ce soir, c'est Palma Show. Parce que comme je le disais dans cette intro vraiment trop longue hein, de ce portrait, en plus d'être deux, en plus d'être drôles, ils sont drôlement malins, Grégoire Ludig et David Marseille.
Mmh. Ah, ça c'est sympa. Ça.
Mais disons, c'est très gentil.
Ouais, c'était bien, c'était pas trop long, hein, moi j'ai bien aimé.
Ouais, moi je serais peut-être plus long encore.
C'était agréable.
Ouais.
À deux, c'est mieux.
À deux, c'est mieux.
À deux, c'est mieux. Ouais.
À deux, c'est mieux.
Dur de travailler seul.
Ouais.
Quel est l'avantage d'ailleurs de travailler à deux ?
De travailler à deux et de bien se connaître. Il y a un ping-pong qui s'effectue de manière assez naturelle maintenant. On se connaît par cœur.
Vous arrivez à vous surprendre encore ?
Ah oui.
À vous faire rire.
Voilà, ouais. Exactement. C'est ça le plus important. Ouais, tout à fait.
Quand on arrive à se surprendre, c'est en général qu'on a trouvé une idée plutôt bonne.
Enfin, qu'on trouve bonne, mais ouais, David a raison. On aime ça aussi, surtout. C'est cool de se dire, tiens, l'autre rigole encore à ce qu'on dit, et vice versa. Donc, c'est assez chouette.
C'est triste, on rigole de nos propres blagues.
Et tant mieux, d'ailleurs.
On est tous là.
Et vous finissez les phrases des autres ou pas? L'un de l'autre?
Oui, ou alors on dit souvent les mêmes choses.
C'est même pire que ça, c'est que par moments, on se regarde et on sait ce que l'autre pense.
C'est à Saint-Valentin aujourd'hui.
C'est un peu comme nous, Charline.
C'est vrai.
Alors, Grégoire Ludig et David Marseille, voyons si tout est mieux à deux avec votre Poplist.
Allez, hop.
Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique et une série culte. Pour le livre, vous avez choisi Les 12 travaux d'Astérix. Oui. C'est une BD de Goscinny et Uderzo, parue pour la première fois en 76. Alors, Charline, je m'y perds un peu dans tous les Astérix. C'est bien celui où Idéfix décide de changer de genre, hein, c'est ça?
Alors, non, pas du tout. Les 12 travaux, c'est celui dans lequel Astérix et Obélix doivent vaincre Mérinos, lancer le javelot plus loin que Kermès, battre Cylindrique à la lustre, résister au charme des prêtresses de l'île du plaisir. Vous me coupez dès que vous en avez marre. Hein. Soutenir le regard d'Iris, achever un repas préparé par Manneken Pix. Voilà. Et il en reste encore quelques-uns.
C'est vrai. Est-ce que vous pouvez nous en lire un extrait, s'il vous plaît ?
Mais bien sûr.
Bah oui, alors.
Alors,
Grégoire David.
Greg, tu fais Obélix ?
Ouais.
D'accord. Pourquoi ? Parce qu'il est gros ?
Non, parce qu'il fait. Non.
Il est costaud.
Non, il fait très bien la voix de Monsieur Tornade. Ah, donc,
Pierre Tornade.
C'est quoi la voix de Pierre Tornade?
Bah, c'est la voix d'Obélix, c'est-à-dire « Oh, les Romains !»
Voilà, vous avez vu cette imitation.
Si vous avez vu les dessins animés,
il le fait très très bien. Donc tu fais Obélix.
Je peux le refaire? Ouais, allez-y.
Oh, chic, des Romains!
Ah, c'est bien, oui.
Centurion, à quoi bon aller encore une fois? Vous savez ce qui va nous arriver? Ces types ne sont pas humains.
Peut-être, mais ce sont les ordres de Jules César. Qui sait? Peut-être que cette fois-ci, ce sera différent.
Laissez-les-moi.
Le moins que l'on puisse dire, Centurion, c'est que je n'ai remarqué aucune différence par rapport aux autres fois. Ces types ne sont pas humains.
Tu fais très bien, le mec qui a pris un...
Ouais, ouais, t'as vu ça.
T'es très bien.
Tu as raison. Oui, de simples mortels ne pourraient pas résister à la Légion romaine. Ce sont des dieux. On ne peut pas se battre contre des dieux.
Des dieux.
Je vais à Rome, le dire à César.
Des dieux. Ces quelques villageois complètement fous des dieux. Laissez-moi rire.
Mais César, il faut tout de même reconnaître que ces villageois... tiennent ta puissance en échec.
Le moment est venu d'appréhender la situation d'une façon réaliste. Si on veut être totalement objectif, on arrive à la conclusion qu'on ne peut rien contre les dieux.
J'ai perdu un peu Obélix en cours de route, mais bon.
C'est parce qu'il n'est plus là.
Okay, cet extrait des 12 travaux d'Astérix, lu par Grégoire David, du Palma Show.
Du coup, j'ai envie de le lire en entier, j'ai envie de le relire.
Ah oui, mais là, il culpa, je suis désolé.
C'est pas grave.
Pourquoi avoir choisi ce petit moustachu et ce gros monsieur tellement passionné par les sangliers?
Parce que je pense que comme tout humoriste, à un moment donné, on a eu envie voilà, on s'est dit, tiens, et si on devait adapter un Astérix Obélix au cinéma, ce serait celui-là.
T'es même imaginé le casting avec tous les personnages qu'il y a dans ce livre, et on avait bien rigolé. On s'était imaginé, mais après on s'est dit que c'était quand même 10 ans de travail à peu près, donc on est passé à autre chose.
Et puis c'est un road trip en fait, les 12 travaux d'Astérix. Nous on aime bien les road trips, c'est ce qu'on a fait dans Max et Léon, donc super, ça nous plaisait.
Et je vous vois bien tous les deux en Astérix et Obélix.
Ça pourrait. Hein.
Bah, déjà on a la voix.
On a déjà la voix.
La voix et la silhouette.
Et le dessin animé.
Merci Antoine. Merci Antoine.
Bien, pour le film culte, vous avez choisi non pas un Astérix, mais Les Trois Frères, réalisé par Didier Bourdon et Bernard Campan en 1995. Charline, vous qui connaissez votre Dumas sur le bout des doigts, ces trois frères étaient-ils mousquetaires? Et si oui, pourquoi?
Alors, oui, mais non, pas du tout, en fait. Bon, ce sont trois types qui ne se connaissent pas et qui sont convoqués devant un notaire pour prendre possession d'un héritage de 3 millions de francs de leur mère. Oui, c'était des francs à l'époque. Ouais. Chanteuse décédée depuis 2 ans aux États-Unis.
Extrait.
Et vous peignez quel genre de peinture?
Abstrait. C'est de l'abstrait, hein. Je crois que c'est de l'abstrait.
Oh, mais j'adore l'abstrait.
Mais j'adore l'abstrait. Petite goutte de champagne, là. Hein?
Oui, quel genre d'abstrait? Plutôt Braque, Vasarely?
Plutôt Braque.
Ah, d'accord.
Tu sais que c'est pas seulement des peintres, hein, tes amis, c'est aussi des comiques, hein?
Des comiques, hein?
Vous vous foutez de ma gueule, les frères Mickey?
Oh, Mickey.
Et si on faisait l'amour tout nu? Hein?
Bon, allez, là, ça suffit. Ouais.
Les Trois Frères, réalisé par Didier Bourdon, Bernard Campan. Encore une fois, un choix commun?
Oui, tout à fait. Un choix commun, parce que les inconnus, on est quand même, sont quand même nos idoles. On n'a pas peur de le dire. On a quand même vu tous leurs sketchs 1 milliard de fois et leur film a été pour nous une super réussite. C'est une vraie comédie, un peu d'aventure aussi, assez sociale, qui traite de beaucoup de choses en toile de fond. Et en réécoutant l'extrait, on a ri encore comme des
enfants.
Comme des enfants, et on peut le revoir un peu éternellement, ce film.
Vous voulez un conseil d'amis?
Oui.
Ne prenez pas Paul Lederman comme manager.
Visiblement.
On en reparlera. Bien. Grégoire Ludig et David Marsalis pour la
c'est
série.
C'est une émission qui balance.
Dans la dénonce.
Ça tape. On a peur de rien. On est des oufs. Grégoire Ludig et David Marsalis pour la série. Vous avez choisi The Office. Alors, comme vous ne choisissez pas entre les deux versions, nous avons tranché, nous, pour la version US.
Oui. C'est la bonne.
Oh, ouf. Série créée par Ricky Gervais et Stéphane Marchand, diffusée entre 2005 et 2013. Aux États-Unis, Charline, Dieu m'est témoin qu'on a parlé plus que de raison de Ricky Gervais dans cette émission. Et tiens, je vous mets à nouveau au défi de me trouver une info inédite à son sujet. Allez-y, nous sommes tout ouïes.
Alors, la série a été la première sitcom britannique en 25 ans à avoir été nommée aux Golden Globes et la toute première ever à l'avoir gagnée. Et pour la version US, Steve Carell a confessé n'avoir regardé que quelques minutes de la VO de peur que David Brent, celui de Gervais, ne cannibalise son Michael Scott.
Voyons ce que ça donne avec Steve Carell.
I'm not superstitious, but I am a little stitious.
Donc, voilà. Pourquoi préférer la version américaine à la version anglaise?
J'aime beaucoup, personnellement, la version anglaise aussi, mais je trouve que le personnage de Ricky Gervais était très antipathique. Donc, effectivement, c'était très drôle, mais on avait quand même beaucoup plus de mal à s'attacher qu'à la version de Steve Carell.
Crevure.
Et d'ailleurs, je trouve que c'est ce qui a fait le succès de la version US, c'est que la première saison, ils sont restés vraiment collés au personnage un peu de Ricky Gervais, et ils ont basculé vers un truc un peu plus sympathique. On lui a donné un peu des fêlures et
pour s'attacher à lui.
Ouais, voilà, il est touchant en fait, Steve Carell, alors que Ricky Gervais, il n'est pas touchant. C'est une ordure, tout simplement.
On a quand même un petit extrait de Ricky Gervais à se mettre sous la dent, là.
There's good news and bad news. The bad news is Neil will be taking over both branches. And some of you will lose your jobs. On a more positive note, the good news is I've been promoted. You're still thinking about the bad news, aren't you?
Vrai saloperie, oui.
Oui, vrai saloperie aussi, hein.
Mais c'est très drôle. Mais je sais pas, Steve Carell a amené une dimension plus touchante, je trouve,
pas
au personnage.
Pas très éloigné du personnage de Poulvord qui ouvre.
Oui, tout à fait. Exactement. Le facecam, tout ça, exactement.
On va en parler dans quelques instants. Bien, alors, Grégoire Ludig, David Marsalis, terminons cette pop liste avec votre chanson culte. Et cette chanson, c'est celle-ci.
Mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me.
Alors, Bohemian Rhapsody, oui, de Queen, bien sûr, sorti en 75 sur l'album Night at the Opera. Donc vous êtes plus Queen que Vianouche.
On est plus Queen que Vianouche, mais en fait cette chanson c'est aussi une référence à un film qu'on a vu chacun de notre côté, je pense, quand on avait 8 ou 9 ans,
c'est, ouais.
Wayne's World. Et en fait...
À la scène dans la voiture.
Quoi. Ouais, exactement. Et je pense que ça, au même moment, on a découvert un truc d'humour complètement différent de ce qu'on voyait, et ça nous a amené à ce qu'on fait aujourd'hui.
Et l'avantage de cette chanson, c'est que c'est plusieurs chansons dans une seule chanson.
Ouais,
donc il n'y a pas de lassitude possible. Ouais.
Voilà,
les
exactement.
Pour le même prix. Je résume les 12 travaux d'Astérix, les trois frères, The Office et Queen. Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture. Et ça nous donne ça.
Et vous peignez quel genre de peinture ?
Abstrait. C'est de l'abstrait, hein. Je crois que c'est de l'abstrait.
Oh, mais j'adore l'abstrait.
Petite goutte de champagne, là. Hein ?
Quel genre d'abstrait ?
Oh, chic des Romains, laissez-les-moi.
I'm not superstitious, but I'm a little stitious.
Voilà du pur jus de palmachot.
Moi, je vais voir cette œuvre.
Ah
ouais, c'est bien.
Bien, le palmachot, on va en parler dans la suite de Pop, juste après Get Your Freak On, c'est Missy Elliott.
これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
I'm the hottest round. I told y'all mother, y'all can't stop me now. Listen to me now. I'm lasting 20 rounds. And if you want me, then come on get me now. Is you with me now? Then biggie, biggie bounce. I know you dig the way I switch my style.
Holla, holla.
People sing around. Now people gather around. Now people jump around.
Flashback en 2001, on dirait pas, hein, dans Pop sur France Inter, avec le morceau Get Your Freak On, extrait de l'album Miss E, So Addictive en 2001. Donc Grégoire Ludic et David Marsay, vous préférez Missy Elliott ou Nanani Nanana, la chanson de l'artisto featuring Lady Jaja?
Ah.
bon choix, hein. Bon choix, ouais. Je pense qu'on comprend un peu plus Missy Elliott que Lady Jaja.
C'est possible. Pas sûr, c'est pas joué ça.
C'est pas joué. Non, non,
c'est
pas joué.
Nanani nanana, c'est un mix entre Jaja d'Aya Nakamura et Chocolat de l'artiste.
Qui a été super d'ailleurs, il nous a retweeté avec un petit smiley qui rigole. On va trouver ça cool.
On va trouver ça sympa. Vous êtes fiers de vous, quoi.
Ouais, très bien. Non, mais particulièrement sur cette parodie, parce que on a réussi, enfin c'est surtout ton frère Charles qui a ouais. composé la musique, qui a réussi à faire une instru qui ressemble à peu près à tout ce qui se passe en ce moment.
Oui,
et je trouve
ça.
Que c'est une prouesse.
Est-ce qu'il faut nécessairement que vous aimiez une chanson pour la revisiter, comme on dirait dans Top Chef?
Hey.
Pour la revisiter, en tout cas, il faut qu'elle nous procure quelque chose.
Ouais.
Si... Mais vous dites pas quoi.
On dit pas quoi, c'est ouais, un peu le voilà. mystère, mais oui, bah
non, mais si vraiment on déteste, on devient méchant, et là ça a plus trop d'intérêt, quoi. Ouais. Donc il y a forcément une part, mais l'extrait qu'on a lâché, en fait, il y a pas la totalité, et ce qu'on sait, il y a un petit message quand même dans cette chanson.
Oui, à la fin. Message d'espoir, non?
Voilà, oui. D'espoir, exactement.
Tout à fait.
On peut sauver la planète.
David, c'est vous qui faites Aya Nakamura. Oui. C'est d'ailleurs vous qui faites souvent les persos féminins dans ce prime. Comment vous répartissez-vous les rôles tous les deux?
On tire au sort. Je perds beaucoup.
Pourquoi? C'est bien aussi de faire les femmes. Il y a une évidence. Il y a des évidences. Il y a des évidences qu'on a avec David. On sait ce qu'on aime, dans lequel on est plus à l'aise, dans les rôles avec lesquels ça match mieux avec ce qu'on écrit. Il y a peu souvent de discussions là-dessus. On sait, on s'approprie les rôles très vite. David, les femmes, effectivement. Moi, la moustache et l'accent du Sud, par exemple.
Ouais, il y a des évidences physiques.
Ça se fait pas mal. voilà, c'est assez simple.
Mais ça n'empêche pas aussi d'inverser de temps en temps.
Oui, on fait du contre-emploi.
Voilà. Grégoire peut faire Kate Winslet, par exemple.
Voilà. Si vous regardez le prime, voilà.
Le ciel est à la limite. Hein.
Ouais. Y a-t-il des gens ou des genres que vous rêvez de parodier que vous n'avez pas encore réussi à choper?
Il y a des parodies qui nécessiteraient des très gros budgets, quoi. Par exemple, les Avengers, on rêve de faire une énorme parodie à gros budget sur tous ces films de super-héros, parce qu'aujourd'hui, le cinéma, c'est des films de super-héros.
Ouais, mais c'est, je sais pas.
Mais c'est compliqué.
Et c'est compliqué aussi parce qu'on n'a pas vraiment encore trouvé l'idée qui nous a permis de nous dire, allez, on va se démener pour essayer de le faire quand même, mais l'idée n'est pas venue. Qu'est-ce qu'on a fait? On voulait faire une parodie des films espagnols, un peu à la Almodovar, à un moment donné, pour Canoff l'année dernière.
C'est vrai.
Mais on n'a pas trouvé l'accent.
On n'a pas trouvé. Si on l'avait trouvé, mais c'était limite.
Ah ouais. Oula. Oula.
C'est quoi?
Je ne sais plus.
J'ai oublié. Bon. En revanche, vous avez très bien Patrick, Sébastien, Grégoire.
Allez.
Est-ce que vous pouvez nous faire, par exemple.
Ah, c'est parti.
Est-ce que vous pouvez nous faire le slogan de l'émission avec la voix de Patrick?
Alors,
Sébastien.
J'étais allé musique à la fin.
Allez, musique. Avec les copains, on était chez Antoine de Cône. On s'est mis derrière le micro, on a déconné. Alors, vous écoutez Pop, l'émission de Pop Culture, de France Inter, ou plutôt, alors, l'émission qui traite de la culture de façon. Allez, musique!
On retrouve
toujours derrière donc, la musique.
Ouais, il y a allez, musique tout le temps.
Okay, toujours allez, musique, toujours allez, la musique. Allez. On vous retrouve donc demain dans Ce soir, c'est Palma Show sur TF1 à 21h. Ce soir, c'est Palma Show. Où êtes-vous allé chercher ce titre que les Américains nous envient?
Visiblement.
Ouais, c'est vrai. Heureusement, on l'a déposé. Hein.
Je crois qu'on a fait un paperboard et on a noté toutes les idées qui étaient qu'on avait. Et puis, on est resté un peu sur le truc classique de « ce soir, je peux pas, ce soir, j'ai machin, demain, j'ai piscine, la fameuse blague, je peux pas, j'ai poney » ou truc comme ça. Donc, nous, on a dit « tiens, ce soir, je peux... bah, ce soir, c'est pas le macho.
Ce soir, j'ai poney, c'est Joséphine.
Tout à fait. Mais on est très emmerdés par ce titre.
Elle n'arrive toujours pas à porter.
Non.
Bah, elle est là.
Elle hoche la tête, elle est d'accord.
Combien de temps passez-vous tous les deux devant la télé? Est-ce qu'il vous arrive de la regarder par pur plaisir? Et si oui, quoi?
Sincèrement, non. Je crois que moi, je la regarde jamais.
Moi, je dois la regarder plus. Ben, je sais pas, en fait. La télé, je la regarde quand il y a des événements sportifs. Ouais, après, il y a peu de rendez-vous. C'est vrai, d'émissions qu'on regarde.
Ou sur un bon vieux film, par exemple, Tomber sur Retour vers le futur. Et ben, là, on se dit, ah,
ouais, voilà, c'est foutu des films.
Je regarde du cinéma à la télé, c'est pas pareil.
Oui, du cinéma à la télé.
En tout cas, la télé. Parle de télé.
Ah, télé.
Si, on peut.
C'est un sujet d'étude, pour le coup.
Oui, mais on s'y penche, en fait. Effectivement, on fait nos devoirs par moment. On se dit, tiens, il y a Patron Incognito, on va regarder Patron Incognito.
Il y a le mot devoir.
Exactement.
Moi, je tombe dans les travers des émissions genre Masterchef ou les trucs comme ça, où tu regardes un peu et tu fais, non, mais on va pas regarder.
Après, ça, vous n'avez pas de prendre du poids.
Laisse un peu. Voilà.
Merci. Regardons Antoine. S'il y a des chromesquis.
Regardons si on reste et tout. On est fixé sur...
On est fixé. Il y a une obsession là.
On va appeler Lederman, il va produire.
Alors,
un film.
Attendez, avant de parler de la forme, quelques considérations sur le fond. Vous proposez demain soir sur TF1 une émission de parodie dans la droite lignée de ce qui se pratiquait il y a une vingtaine d'années hein, sur Canal+, avec les nuls notamment, mais aussi avec les inconnus. Qu'est-ce que ça raconte de notre époque? Ça veut dire que cet humour-là, qui était légèrement transgressif, en tout cas, qui prend la liberté de jouer avec tous les codes de la télévision, est devenu à son tour grand public?
Bonne question.
Ben oui.
Je sais pas, moi j'ai l'impression aussi surtout
qu'on... Moi les malins là. Hein.
Ouais, non, ouais, parce ouais. que j'ai l'impression qu'on raconte les mêmes choses, enfin qu'on n'est pas déjà les seuls à le faire et qu'on a la chance d'avoir fait les trois primes sur C8 mm-hmm. et d'avoir eu une sorte d'identité, en tout cas d'avoir créé notre identité à nous. Et là on est comme, voilà, on a l'occasion de le faire sur une chaîne à plus de,
Mouse costaud.
Plus d'audience, ouais. voilà, c'est un challenge pour nous, on avait envie. Après je pense qu'on est... Je sais pas si c'est un pari de la part de TF1 ou quoi, mais
est-ce que les gens sont prêts? Voilà, c'est surtout ça.
On n'est pas les seuls, mais est-ce que les gens, nous, quand on tournait, c'est vrai qu'on se disait, cette blague-là va passer sur TF1 en...
Oui, mais alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que la télévision est devenue capable, enfin, cette télévision, hein,
elle est obligée de se renouveler, en fait.
Mais ça veut dire qu'elle est devenue capable d'auto-dérision, et si c'est oui, est-ce que c'est une aussi bonne nouvelle que ça?
Alors, je pense que oui, à partir du moment où il y a des émissions sérieuses qui sont les ch'tis, qu'on laisse regarder, et qu'on laisse tout ça de manière très premier degré, avec des choses qui sont bien pires qu'il y a dans notre prime. Je pense aussi quelque part que c'est un risque, mais on n'est pas non plus dans une dans une révolution que de faire passer notre émission en prime sur TF1, je pense.
Justement, parce que la parodie, c'est un genre très particulier dans lequel il faut savoir doser. Mais alors, de plus en plus, la télé se livre consensueusement à ce qui ressemble à des parodies d'émissions. Hein. L'actualité se fait de plus en plus feuilletonnante, voire ubuesque. Comment est-ce que vous faites pour suivre la cadence et justement déterminer les proportions à respecter, en fait? Des fois, on a l'impression que ce qui est diffusé comme de vraies émissions est presque de la parodie en soi.
C'est pour ça que...
C'est pour ça qu'on ne s'attaque pas à certaines émissions. Typiquement, tout ce qui est télé-réalité, on a fait un petit court extrait justement dans ce pré-roll. Mais voilà, je pense que les 30 secondes étaient suffisantes.
Ouais, tout à fait.
C'est tout ce que ça méritait et ça servait à rien de faire plus, quoi. Non, en fait, on se dirige toujours vers des émissions qui se prennent trop au sérieux. Et je pense qu'au fond, la télé-réalité, ça se prend un peu au sérieux, mais quand on regarde, je pense qu'on est conscient que c'est pas de la bonne télévision, quoi.
Pas tout le monde.
Pas tout le monde, oui.
C'est un avis.
Dans ce prime, diffusé demain soir, vous détournez des programmes télé existants avec des guests, comme par exemple Benoît Poulvorde, dont on parlait tout à l'heure, qui se retrouve dans la peau d'un directeur raciste, pour Patron Anonyme, votre version de Patron Incognito.
C'est ça.
Cadmerade remplace Nikos pour The Voice Kidou.
Tout à fait.
Gustave Kervern veut proposer l'émission Le Meilleur Tripier de France et Florence Foresti remplace La Laitière.
Vous voulez me piquer mes crèmes?
Bah oui, comme d'hab.
Ouais. Vous savez pas faire vos crèmes tout seul? Vous avez des œufs?
Oui.
Vous avez des vaches?
Oui.
Ben vous savez faire les crèmes.
Oui.
Pas pourquoi que ça serait toujours à une gonzesse de faire bouffer tout le village. Oh voilà, regarde-moi ça, putain, on est en 1658 là. Faut avancer là, c'est fini le 16e siècle. Hein.
La crémière, douceur et subtilité.
Par contre le cul de la crémière, ça marche toujours, hein. Je suis preneuse.
Merci Florence.
Comment avez-vous fait l'association entre Florence Foresti et la dame qui fait du riz au lait avec sa coiffe depuis 1658? Elle a pas une silhouette typiquement flamande, Foresti?
Quand même. Mais non, mais c'est qu'en fait, on voyait toutes ces pubs là à chaque fois de la laitière. On se dit, mais comment est-ce que cette laitière n'en a pas marre de voir des gens débarquer à sa fenêtre? Dire, oh, on a fait des crèmes, vous pouvez m'en donner. Elle les donne avec le sourire. Et là, on s'est dit, non, à un moment donné, quelqu'un va se rebeller. Et on pense que voilà, Foresti était la personne qui devait incarner cette rébellion.
Alors, on l'a dit, il y a du très beau monde à vos côtés dans ce prime. Et comme ici, on a une résonance mondiale, on peut très facilement faire passer des messages et des idées. Le guest de vos rêves, ce serait qui?
Vivant.
Idéalement, ouais.
Guest de nos rêves. On va partir aux États-Unis.
Partir aux États-Unis. Je dirais, ouais.
Will Ferrell,
ouais. Ou Steve Carell.
Bah, Steve Carell, dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Bah, là, c'est un peu aussi les idoles du moment. Donc, oui, les avoir dans un sketch, ce serait génial. Les ch'tis avec Will Ferrell, je sais pas ce que ça donnerait, mais on peut essayer.
C'est compliqué à transposer, hein.
C'est compliqué. The ch'tis. C'est Marseillaise.
Bon, ce soir, c'est pas le macho. Enfin, c'est demain soir, vous l'aurez compris, sur TF1, 21h. On va continuer cette conversation dans quelques instants, mais pour le moment, c'est l'heure des pop news. Est-ce que vous savez faire ça?
On va essayer.
Ils sont bien entraînés, hein.
Ouais,
c'est pas mal. Allez, pop news.
Un nouveau titre et la perspective d'un troisième album pour Mini Mentions, groupe composé du trio Zach Dawes, Tyler Parkford et Michael Schumann, le bassiste de Queens of the Stone Age. Et ce premier single s'appelle Gummy Bear. Gummy Bear, extrait de l'album dont on peut déjà se dire qu'il porte le meilleur titre de l'année, soit Guys Walk Into a Bar, qui sortira en juillet et même qu'il contient une collab avec Alison Mossart des Kills.
Avant même qu'il ne soit là, il crée déjà la polémique. Lui, c'est Lionel Planche et ce sont les animateurs de Canal+ qui en parlent le mieux.
Lionel Planche.
Le producteur, colérique et controversé.
Un personnage sombre, aux frasques répétées.
Lionel Planche.
Une nouvelle procédure à l'encontre de Lionel Planche.
Lionel Planche, le producteur thug.
Il aurait insulté
des injures.
Craché sur
un ingénieur du son.
Un cactus.
Sur une brebis.
Il a pris un cactus, il a lancé le visage.
Lionel Planche, des frasques et une dette.
Plus de 300 000 euros.
Des années que Lionel Planche a des emmerdes avec la justice.
Lionel Planche
est à nouveau dans la tourmente.
Et Lionel Planche, c'est en réalité Baptiste Le Caplain dans son premier programme court intitulé Pitch qui démarrera le 17 février sur la chaîne cryptée.
Bienvenue dans Cinoche, mon pote.
Rebelle Wilson et Hannah Hathaway dans une comédie d'arnaque qui semble bien prometteuse. C'est un remake du film avec Michael Caine et Steve Martin, le plus escroc des deux, dont les rôles et genres ont été changés pour les deux comédiennes précédemment citées, qui, elles, semblent bien s'amuser, comme en témoigne cette leçon d'arnaque dispensée dans la bande-annonce.
Listen, there's nothing more compelling to a man than a vulnerable woman. Observe.
Wow, you can just tear up like that. Can you make the tear roll down your cheek? Oh.
Now you try. Are you constipated?
Et pour apprendre à pleurer correctement, ce sera dans The Hustle et ça sortira le 17 juillet sur les écrans.
France Inter. On peut pas. Antoine Decaune.
Oui, c'est moi, Charline.
Nounours?
Mais non, Obélix.
Ah non.
Non, pas du tout.
Non.
Très bien. Merci Charline. Et j'ajoute une dernière pop news pour la route. Ramon Pipin et ses excellents en première partie seront en concert samedi et dimanche au Café de la Danse à Paris. Bien, avant d'accueillir Renan pour sa pop prescription de la semaine, écoutons l'artiste québécois Hubert Lenoir avec son morceau « Fille de personne 2 ».
Yeah.
suis venu te dire que tu peux changer.
Fille de personne 2, c'est un morceau signé de la sensation pop québécoise Hubert Lenoir. D'ailleurs, en parlant de Québec, je ne peux pas m'empêcher de réécouter la version remasterisée d'un film de Xavier Dolan. Par vous, Grégoire Ludig et David Marsais, ça donnait Bolan.
Tom,
la poutine.
Gaming,
la poutine.
Gaming,
la poutine.
Gaming.
Pensez aller à Québec bientôt ou vous êtes interdit de poutine?
Non, on va y aller là justement, on va faire une tournée pour présenter ce film, à mon avis on va faire un grand succès là-bas.
Moi je dis que le niveau de ce sketch c'est simplement juste deux gars qui disent des expressions québécoises.
C'est vrai.
Avec un accent.
Ouais, voilà.
Bien.
C'est que demande-t-on?
Ouais, c'est ça.
Vous écoutez pop, l'émission Pop Culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes toujours en compagnie de Grégoire Ludig et de David Marsais du Palma Show. Il vient de nous rejoindre Renan Crowe.
Mais oui, bonjour Renan.
Bonjour
David, ça va, vous allez bien?
Patientez s'il vous plaît encore quelques instants.
Oui, je patiente.
Je poursuis ma conversation. Vous restez là, sagement assis, à côté de Joséphine.
Comme toujours.
D'accord, occupez-vous d'elle.
Je vais l'aider à monter.
Ce soir, c'est... Prenez la surpose pour le carré. Ce soir, c'est Palma Show. C'est diffusé donc demain soir à 21h sur TF1. L'idée de départ, c'est donc de créer une chaîne de télé, Palma Show. Est-ce que finalement, c'est pas ça la bonne idée? Fédérer tous ceux qui voudraient une télé différente, qui s'amusent à casser les codes et les formats. Est-ce que ça pourrait pas faire une vraie chaîne finalement?
Mais je ne sais pas en fait. Finalement, quand on regarde un peu les audiences des chaînes, on se rend compte que, parce qu'on, voilà, on critique la fiction française, mais ces fictions font des scores incroyables. Mmh. Donc, je pense que nous, demain, si on monte une chaîne avec ce qu'on aime, nos séries, je suis pas sûr que ça fonctionne, en fait. Il faut quand même respecter un certain public.
Mmh. Mais même s'il y a beaucoup de chaînes aussi qui sont montées de plus en plus avec des noms pas possibles. Donc, c'est ça qu'on a voulu décrire aussi dans le Prime. C'est-à-dire que monter une chaîne, c'est bien. Encore faut-il savoir le faire.
Non, mais ça partait d'une absurdité aussi, oui, de se dire sur quelle chaîne on va diffuser notre Prime. Viens, on monte notre chaîne.
Oui, un élément de fiction, tu veux dire.
C'est un gag.
Oui, voilà.
À propos de chaînes récentes, il y a le fameux Netflix, évidemment, qui devient Netflix.
Netflix.
Tout à fait. Renan, puisque je vous tiens sous la main et que vous avez Joséphine sur les épaules,
j'aime que vous me tenez sous la main, Antoine. Mais je suis très content d'être là parce qu'en fait, j'ai enfin la grande série française que tout le monde attendait. C'est la série du moment et ça s'appelle Limoges.
L'oiseau doit savoir sortir de sa tanière. Il faut faire ressortir le tigre qui est en toi.
Tu crois que je vais te laisser reprendre la ville?
J'ai bien vu ce que tu voulais faire avec la médiathèque Jean-Jacques Rousseau, sac à merde.
J'irai jusqu'au bout du centre des loisirs Pierre de Coubertin.
Et moi de ma salle des fêtes Victor Hugo.
Limoges est à moi.
Non, Limoges est au... Limoges est au Limougeau.
Ah. Non, Limoges est à moi.
C'est dingue, hein. Même quand c'est pour Netflix, on voit que c'est français.
Aussi bien que Marseille.
Ah oui, c'est vraiment, on l'entend, il y a de l'émotion, il y a vraiment des choses passionnantes, donc ça s'appelle Limoges, c'est sur Netflix, c'est vraiment la grande série. C'est vraiment une série proche du peuple, c'est vraiment une série qui raconte ce que c'est que la France d'aujourd'hui. C'est une série qui regarde la France de travers. Je dis Netflix.
Vous avez dit Netflix.
Je dis Netflix.
Oui.
C'est vraiment une série qui regarde la France de travers, qui va au fond des choses, en fait. C'est la série qu'on attendait, Limoges. Voilà, vraiment, c'est fabuleux, ça débarque bientôt vendredi sur Netflix, exactement.
D'accord. C'est tout?
Oui, c'est tout.
C'est tout ce que vous avez préparé pour aujourd'hui?
Bah oui, c'est tout.
C'est votre chronique, ça? Ok, bah alors vous allez rentrer chez vous, travailler un petit peu, puis vous revenez demain avec quelque chose d'un peu plus sérieux.
Ben non, mais j'ai bossé en fait là.
Ok, non, parce que là vous êtes avec des professionnels.
D'accord.
Alors Grégoire, David, vous parodiez tout ce qui bouge dans la télé de flux et de divertissement, mais cette fois-ci vous ne touchez pas à l'info. Je pense en particulier aux chaînes d'info continue, où pourtant la matière à parodie abonde. Je voudrais savoir si c'est un choix délibéré.
Alors, on l'avait déjà fait à une époque dans notre programme qui était Very Bad Blague. On a évoqué le sujet, on a voulu le faire. On avait un truc sur la pluie, je ne sais pas si tu te souviens.
Oui, tout à fait.
On voulait faire un long sketch où les mecs parlent de la pluie. Attention, il pleut, on va aller voir un mec qui a des bottes. Voilà,
avec les infos continues, l'info continue avec de la non-info.
Ouais, avec de la non-info. Et puis non, finalement, ça marchait moins bien. Mais si jamais il y a un autre prime, peut-être.
Oui, tout à fait.
Et peut-être que vous pourrez faire le présentateur, en tout
cas. Avec plaisir. Plaisir. Ah oui, en boucle.
Ouais, super.
Et dans cette soirée de prime qui est la vôtre, il y a aussi un sketch qui sent sacrément le vécu, une réunion parents-prof de classe de maternelle. Est-ce que vous êtes bien conscient qu'après demain soir, vous êtes tricard à l'association des parents d'élèves?
Oh, je suis trop content d'être tricard là-bas. Je veux pas y foutre les pieds, moi. À chaque fois, ils nous invitent, mais j'ai pas envie d'y aller. Et on va prendre un café. Non, je ne veux pas.
Vous refusez de créer du lien social. Je ne vous félicite pas.
Je suis misanthrope, moi, de toute façon.
Vous vous rendez compte que vous pouvez aussi devenir des pourvoyeurs d'idées, par exemple. Le meilleur tripier de France, votre émission culinaire.
Ça peut être pas mal, bien sûr. Ce sera un succès.
Pierre Verne, ça peut intéresser une chaîne comme M6, non?
Ça peut. Mais faut qu'ils regardent demain, ils nous diront eux-mêmes.
Mais est-ce que c'est gourmand croquant, les tripes?
Ah, je crois
c'est ça
gourmand,
le problème. Si on peut dire gourmand ni croquant, ça ne peut pas.
Ça se dit avec l'accent, ouais, c'est vrai.
Comment croquant.
Et la parodie à la radio?
La parodie
je laisse
à la
ouvert
radio.
Comme ça, vous avez vu, je n'ai même pas de questions.
On avait fait quelques petites parodies à l'époque quand on était à...
Oui, c'est vrai, on a travaillé à la radio,
sur Planète Arthur, on faisait des parodies, mais c'est très dur, c'est-à-dire que les parodies radio, il faut que ce soit très 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 sonore, donc avec beaucoup de jingle, beaucoup d'effets par-dessus, et nous on n'est pas très, au final, pas très bon à ça, on préfère
mais
plutôt...
Mais ça nous a vachement appris du truc. Hein,
oui, tout à fait, mais c'est-à-dire que là, refaire des parodies radio, il faut être... Il faut que ça dure 30 secondes, pas plus. Sinon, on perd un peu les gens. On trouve.
Voilà.
Eh ben, à bientôt.
On a cette tendance à mettre des blancs aussi à la radio.
Mais c'est bien.
La radio manque de blancs, non?
Ouais. Alors, calmons-nous un peu.
Alors, j'ai beaucoup aimé aussi votre parodie de Guess My Age, l'émission dans laquelle il fallait deviner l'âge d'un candidat. Dans votre prime, cette émission devient Guess My... What? Point d'interrogation. Une émission dans laquelle il faut trouver... Dites-moi, j'ai oublié.
Bah, la taille de la taupe d'un mec, quoi. J'essaie de le dire comme le présentateur.
D'accord. Vous diriez quoi pour moi, par exemple?
La question piège.
Il
faudrait une musique suspense. Est-ce que c'est possible d'en avoir?
Je sais pas si on peut trouver une petite musique suspense. Ça arrive.
C'est super.
On est candidat, on regarde
Antoine.
Je vous évalue. Ouais, ouais. Petite musique suspense.
Voilà. Est-ce qu'il se concerte? Il se concerte souvent.
Je dirais 18.
Un petit peu plus quand même.
Tu crois que c'est plus? 19?
Allez, 20. Je pense que c'est 20. Moi, je partirai sur 25. Allez, 25. Moi, je m'arrête à 25.
Eh ben, 25.
Messieurs, vous êtes flatteurs, mais vous êtes très loin du compte. Vous pouvez diviser, hélas, par deux. Bien.
Alors, 12,5, c'est drôle. Et toi, 12,5.
8,5, je sais pas. C'est possible. Au repos. Pas bon.
Si, j'ai bien aimé le repos,
évidemment.
On est vraiment en train de clore cette conversation par ça, en fait.
Mais oui.
Très bien.
Et alors, pourquoi pas? Et pourquoi
pas? Comme ça.
Et pourquoi pas? Nous aussi, nous sommes des hommes. Nous avons le droit de nous exprimer. Grégoire Ludig et David Marseille. Il est l'heure pour moi de descendre à la cave, chercher le dernier vinyle de l'émission et j'y vais de ce pas. Allez.
Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est quoi ce machin qui vole? Un bébé?
Mais c'est pas courant ça! Et comment tu t'appelles toi?
Je suis Cupidon, voyons.
Ah, mais oui, Cupidon, mais oui, bien sûr, c'est la Saint-Valentin, évidemment. Dis-moi, Cupidon, c'est un bel arc que tu as là? Oh, limite arbalète, hein? Fais gaffe à pas te blesser quand même. Hé, fais gaffe! Je te dis, tu vises n'importe où!
Mais Antoine, l'amour est aveugle!
Mais oui! L'amour est aveugle, d'accord, mais c'est pas une raison pour m'éborgner! T'as fait formation CRS ou quoi? Mais enfin, c'est qui est dangereux ce con? Mais dégage, Cupidon, tu me saoules, allez! Oh putain, mais t'es sourd en plus d'être aveugle! Ah, ok, t'as déjà goûté de la bombe à moustique, hein, Cupidon? Tiens, regarde. Et voilà, c'est réglé pour la Saint-Valentin. Maintenant, je peux mettre un vinyle. Tiens, Johnny Cash, Ring of Fire.
Love is a burning thing, and it makes a fiery ring, bound by wild desire. I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire.
I went down, 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 and the flames went higher, and it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet when hearts like ours meet. I fell for you like a child. Oh, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire.
Johnny Cash dans Pop 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 sur France Inter, Ring of Fire. C'était en 63, ça. Grégoire Ludic, David de Marseille. Oui. Je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai l'intention de transformer ma cave en musée. Je demande à tous les invités qui passent par ici s'ils veulent bien laisser un souvenir.
Oh, chouette.
Un objet, une pensée, ce que vous voulez.
D'accord.
Alors, Grégoire.
Attends, je le sors du sac.
Allez-y.
J'avais tout préparé. Mmh.
C'est un objet commun.
Salut Joséphine.
Et voilà. Alors c'est un objet qu'on a choisi avec David, qui compte beaucoup pour nous,
mm-hmm. qu'on a retrouvé récemment pour de vrai.
C'est un DVD mm-hmm. qui s'appelle Première Mi-temps.
Qui est un DVD, une compilation de sketchs.
De nos tout premiers sketchs.
Mais là on parle de vraiment tout mm-hmm. premiers sketchs qui ont 17 ans voilà, à peu près.
C'était en 2001-2002 je crois.
Ils doivent donc avoir une fraîcheur candide.
Oh là là, oh là, là. Beaucoup trop frais. C'est beaucoup trop froid.
Tourné à la caméra DV dans des vérandas qui résonnent avec des chiens. Enfin bref.
Mais pour nous, c'est un objet culte. Mm-hmm. Ouais. Sincèrement.
Et vous me le laissez à
et
moi dans ma
cave. Nous sommes fiers de vous le laisser. Ouais, et vous pouvez le visionner quand vous voulez.
Mais là encore, c'est un cadeau commun.
C'est un cadeau commun.
Est-ce que c'est celui qui vous a été renvoyé par une chaîne?
Exactement.
Avec une lettre très sympa, mais avec, par contre,
derrière, il y avait marqué nul.
Oui, une lettre qui nous disait désolé, mais nous ne recherchons pas actuellement des humoristes.
Merci,
et derrière,
bon courage dans vos recherches. Derrière,
nul. Et de l'autre côté, inconnu à cette adresse.
Exactement. Ouais, oui.
Ok, d'accord.
Il y a du métier là.
Alors ce soir, c'est pas le macho, c'est demain soir en fait. Hein.
Ouais,
enfin, ce soir. N'écoutez pas tout ce que je dis. Sur TF1 à 21h. La prochaine étape derrière?
Les States.
Les States, peut-être. Effectivement. Et l'écriture d'un deuxième film.
Oui, on est en train d'écrire un deuxième film.
Qu'on a commencé il n'y a pas longtemps.
Très bien. Eh bien, nous attendrons ça impatiemment. Grégoire Ludig, David Marseille, merci d'être
venu. Merci à vous. Merci beaucoup.
Dans notre studio, je rappelle, c'est diffusé demain soir à TF1, sur TF1, à 21h. Merci à l'équipe de Pop Pop Pop. Ghislain Fontanus à la réalisation, à la technique Patrick Henry, qui se tient à carreau hein, avec son bracelet électronique. Aurélien Esvan, notre rédacteur en chef. Claire-Sophie Collet, Simon Arestat, nos attachés de production. À la programmation musicale, Djoubaka et Alice Delcourt, notre stagiaire. Demain dans Pop Pop Pop, la réalisatrice du film Black Snake, Carole Rocher. Mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jones 3.0, un Yeuve ou une Yeuvesse à la pointe, suivez-nous. Ou plutôt, comme dit Cupidon à la fin de ses tutos Saint-Valentin sur YouTube. Ah bah oui, c'est vrai que je l'ai flingué, oui. Bah, il dit abonnez-vous à notre podcast. Et suivez-nous sur les internets, comme disent les milléniaux, 3615, pop 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 sur Instagram et Twitter.